Consuelo, livre 1, chapitre 27. Durant l'absence d'Albert, le comte et la chanoinesse avaient fait beaucoup de projets pour l'avenir de leur cher enfant, et particulièrement celui de le marier. Avec sa belle figure, son nom illustre et sa fortune encore considérable, Albert pouvait prétendre au premier parti. Mais, dans le cas où un reste d'indolence et de sauvagerie le rendrait inhabile à se produire et à se pousser dans le monde, on lui tenait en réserve une jeune personne, aussi bien née que lui, puisqu'elle était sa cousine germaine et qu'elle portait son nom, moins riche que lui, mais fille unique, et assez jolie comme on l'est à 16 ans, quand on est fraîche et parée de ce qu'on appelle en France la beauté du diable. Cette jeune personne, c'était Amélie, baronne de Rudolstadt, votre humble servante et votre nouvelle amie. Celle-là, se disait-on au coin du feu, n'a encore vu aucun homme. Élevée au couvent, elle ne manquera pas d'envie d'en sortir pour se marier. Elle ne peut guère aspirer à un meilleur parti. Et quant aux bizarreries que pourrait encore présenter le caractère de son cousin, d'anciennes habitudes d'enfance, la parenté, quelques mois d'intimité auprès de nous effaceront certainement toute répugnance, et l'engageront, ne fût-ce que par esprit de famille, à tolérer en silence ce qu'une étrangère ne supporterait peut-être pas. On était sûr de l'assentiment de mon père, qui n'a jamais eu d'autre volonté que celle de son aîné et de sa sœur Wenceslas, et qui, à vrai dire, n'a jamais eu une volonté en propre. Lorsque, après 15 jours d'examen attentif, on eut reconnu la constante mélancolie et la réserve absolue qui semblait être le caractère décidé de mon cousin, mon oncle et ma tante se dirent que le dernier rejeton de leur race n'était destiné à lui rendre aucun éclat par sa conduite personnelle. Il ne montrait d'inclination pour aucun rôle brillant dans le monde, ni pour les armes, ni pour la diplomatie, ni pour les charges civiles. À tout ce qu'on lui proposait, il répondait d'un air de résignation qu'il obéirait aux volontés de ses parents, mais qu'il n'avait pour lui-même aucun besoin de luxe ou de gloire. Après tout, ce naturel indolent n'était que la répétition exagérée de celui de son père, cet homme calme dont la patience est voisine de l'apathie, et chez qui la modestie est une sorte d'abnégation. Ce qui donne à mon oncle une physionomie que son fils n'a pas, c'est un sentiment énergique, quoique dépourvu d'emphase et d'orgueil, du devoir social. Albert semblait désormais comprendre les devoirs de la famille. Mais les devoirs publics, tels que nous les concevons, ne paraissaient pas l'occuper plus qu'au jour de son enfance. Son père et le mien avaient suivi la carrière des armes sous Montecuculi, contre Turenne. Ils avaient porté dans la guerre une sorte de sentiment religieux inspiré par la majesté impériale. C'était le devoir de leur temps d'obéir et de croire aveuglément à des maîtres. Ce temps-ci, plus éclairé, dépouille les souverains de l'auréole, et la jeunesse se permet de ne pas croire à la couronne plus qu'à la tiare. Lorsque mon oncle essayait de ranimer dans son fils l'antique ardeur chevaleresque, il voyait bien que ses discours n'avaient aucun sens pour ce raisonneur dédaigneux. « Puisqu'il en est ainsi, se dirent mon oncle et ma tante, ne le contrarions pas. Ne compromettons pas cette guérison assez triste qui nous a rendu un homme éteint à la place d'un homme exaspéré. Laissons-le vivre paisiblement à sa guise, et qu'il soit un philosophe studieux, comme l'ont été plusieurs de ses ancêtres, ou un chasseur passionné comme notre frère Frédéric, ou un seigneur juste et bienfaisant comme nous nous efforçons de l'être. Qu'il mène dès à présent la vie tranquille et inoffensive des vieillards. Ce sera le premier des Rudolstadt qui n'aura point eu de jeunesse. Mais comme il ne faut pas qu'il soit le dernier de sa race, hâtons-nous de le marier, afin que les héritiers de notre nom effacent cette lacune dans l'éclat de nos destinées. Qui sait, peut-être le généreux sang de ses aïeux se repose-t-il en lui par l'ordre de la Providence, afin de se ranimer plus bouillant et plus fier dans les veines de ses descendants. et il fut décidé qu'on parlerait mariage à mon cousin Albert. On lui en parla doucement d'abord, et comme on le trouvait aussi peu disposé à ce parti qu'à tous les autres, on lui en parla sérieusement et vivement. Il objecta sa timidité, sa gaucherie auprès des femmes. « Il est certain, disait ma tante, que dans ma jeunesse, un prétendant aussi sérieux qu'Albert m'eût fait plus de peur que d'envie, et que je n'eusse pas échangé ma bosse contre sa conversation. « Il faut donc, lui dit mon oncle, revenir à notre pis-aller, et lui faire épouser Amélie. Il l'a connue enfant, il la considère comme sa sœur, il sera moins timide auprès d'elle. Et comme elle est d'un caractère enjoué et décidé, elle corrigera par sa bonne humeur l'humeur noire dans laquelle il semble retomber de plus en plus. » Albert ne repoussa pas ce projet et, sans se prononcer ouvertement, consentit à me voir et à me connaître. Il fut convenu que je ne serais averti de rien afin de me sauver la mortification d'un refus toujours possible de sa part. On écrivit à mon père et dès qu'on eut son assentiment, on commença les démarches pour obtenir du pape les dispenses nécessaires à cause de notre parenté. En même temps, mon père me retira du couvent, et un beau matin, nous arrivâmes au château des Géants. Moi, fort contente de respirer le grand air et fort impatiente de voir mon fiancé. Mon beau-père, plein d'espérance, et s'imaginant m'avoir bien caché un projet qu'à son insu il m'avait, chemin faisant, révélé à chaque mot. La première chose qui me frappa chez Albert, ce fut sa belle figure et son air digne. Je vous avouerai, ma chère Nina, que mon cœur battit bien fort lorsqu'il me baisa la main, et que pendant quelques jours, je fus sous le charme de son regard et de ses moindres paroles. Ses manières sérieuses ne me déplaisaient pas, il ne semblait pas contraint le moins du monde auprès de moi. Il me tutoyait comme au jour de notre enfance, et lorsqu'il voulait se reprendre, dans la crainte de manquer aux convenances, nos parents l'autorisaient et le priaient, en quelque sorte, de conserver avec moi son ancienne familiarité. Ma gaieté le faisait quelquefois sourire sans effort, et ma bonne tante, transportée de joie, m'attribuait l'honneur de cette guérison qu'elle croyait devoir être radicale. Enfin, il me traitait avec la bienveillance et la douceur qu'on a pour un enfant, et je m'en contentais, persuadé que bientôt il ferait plus d'attention à ma petite mine éveillée et aux jolies toilettes que je prodiguais pour lui plaire. Mais j'eus bientôt la mortification de voir qu'il se souciait fort peu de l'une et qu'il ne voyait pas seulement les autres. Un jour, ma bonne tante voulut lui faire remarquer une charmante robe bleu lapis qui dessinait ma taille à ravir. Il prétendit que la robe était d'un beau rouge. L'abbé, son gouverneur, qui avait toujours des compliments fort mielleux au bord des lèvres et qui voulait lui donner une leçon de galanterie, s'écria qu'il comprenait fort bien que le comte Albert ne vit pas seulement la couleur de mon vêtement. C'était pour Albert l'occasion de me dire quelque chose de flatteur sur les roses de mes joues ou sur l'or de ma chevelure. Il se contenta de répondre à l'abbé, d'un ton fort sec, qu'il était aussi capable que lui de distinguer les couleurs, et que ma robe était rouge comme du sang. Je ne sais pourquoi cette brutalité et cette bizarrerie d'expression me donnèrent le frisson. Je regardai Albert et lui trouvai un regard qui me fit peur. De ce jour-là, je commençai à le craindre plus qu'à l'aimer. Bientôt, je ne l'aimais plus du tout, et aujourd'hui, je ne le crains ni ne l'aime. Je le plains, et c'est tout. Vous verrez pourquoi, peu à peu, et vous me comprendrez. Le lendemain, nous devions aller faire quelques emplettes à Taos, la ville la plus voisine. Je me promettais un grand plaisir de cette promenade. Albert devait m'accompagner à cheval. J'étais prête et j'attendais qu'il vînt me présenter la main. Les voitures attendaient aussi dans la cour. Il n'avait pas encore paru. Son valet de chambre disait avoir frappé à sa porte à l'heure accoutumée. On envoya de nouveau savoir s'il se préparait. Albert avait la manie de s'habiller toujours lui-même et de ne jamais laisser aucun valet entrer dans sa chambre avant qu'il en fût sorti. On frappa en vain, il ne répondit pas. Son père, inquiet de ce silence, monta à sa chambre et ne put ni ouvrir la porte, qui était barricadée en dedans, ni obtenir un mot. On commençait à s'effrayer, lorsque l'abbé dit d'un air fort tranquille que le comte Albert était sujet à de longs accès de sommeil qui tenaient de l'engourdissement, et que lorsqu'on voulait l'en tirer brusquement, il était agité et comme souffrant pendant plusieurs jours. « Mais c'est une maladie, cela !» dit la chanoinesse avec inquiétude. « Je ne le pense pas, » répondit l'abbé. « Je ne l'ai jamais entendu se plaindre de rien. Les médecins que j'ai fait venir, lorsqu'il dormait ainsi, ne lui ont trouvé aucun symptôme de fièvre, et ont attribué cet accablement à quelque excès de travail ou de réflexion. Ils ont grandement conseillé de ne pas contrarier ce besoin de repos et d'oubli de toute chose. « Et cela est fréquent ?» demanda mon oncle. « J'ai observé ce phénomène 5 ou 6 fois seulement durant 8 années, » répondit l'abbé. « Et ne l'ayant jamais troublé par mes empressements, je ne l'ai jamais vu avoir de suite fâcheuse. « Et cela dure-t-il longtemps ? » demandai-je à mon tour, fort impatienté. « Plus ou moins, » dit l'abbé, « suivant la durée de l'insomnie qui précède ou occasionne ses fatigues. » Mais nul ne peut le savoir, car monsieur le comte ne se souvient jamais de cette cause, ou ne veut jamais la dire. Il est extrêmement assidu au travail, et s'en cache avec une modestie bien rare. « Il est donc bien savant ? » repris-je. « Il est extrêmement savant. » « Et il ne le montre jamais ? » « Il en fait mystère, et ne s'en doute pas lui-même. » « À quoi cela lui sert-il en ce cas ? » « Le génie est comme la beauté, » répondit ce jésuite courtisan en me regardant d'un air doucereux. « Ce sont des grâces du ciel qui ne suggèrent ni orgueil ni agitation à ceux qui les possèdent. » Je compris la leçon et n'en eus que plus de dépit, comme vous pouvez croire. On résolut d'attendre, pour sortir, le réveil de mon cousin. Mais lorsqu'au bout de 2 heures, je vis qu'il ne bougeait, j'allais quitter mon riche habit d'Amazone et je me mis à broder au métier, non sans casser beaucoup de soie et sans sauter beaucoup de points. J'étais outré de l'impertinence d'Albert, qui s'était oublié sur ses livres la veille d'une promenade avec moi, et qui maintenant s'abandonnait aux douceurs d'un paisible sommeil pendant que je l'attendais. L'heure s'avançait, et force fut de renoncer au projet de la journée. Mon père, bien confiant aux paroles de l'abbé, prit son fusil et alla tuer un lièvre ou 2. Ma tante, moins rassurée, monta les escaliers plus de 20 fois pour écouter à la porte de son neveu, sans pouvoir entendre même le bruit de sa respiration. La pauvre femme était désolée de mon mécontentement. Quant à mon oncle, il prit un livre de dévotion pour se distraire de son inquiétude, et se mit à lire dans un coin du salon, avec une résignation qui me donnait envie de sauter par les fenêtres. Enfin, vers le soir, ma tante, toute joyeuse, vint nous dire qu'elle avait entendu Albert se lever et s'habiller. L'abbé nous recommanda de ne paraître ni inquiet ni surpris, de ne pas adresser de questions à monsieur le comte, et de tâcher de le distraire s'il montrait quelque chagrin de sa mésaventure. « Mais si mon cousin n'est pas malade, il est donc maniaque !» m'écriai-je avec un peu d'emportement. Je vis la figure de mon oncle se décomposer à cette dure parole, et j'en eus des remords sur le champ. Mais lorsqu'Albert entra, sans faire d'excuse à personne, et sans paraître se douter le moins du monde de notre contrariété, je fus outré et lui fis un accueil très sec. Et il ne s'en aperçut seulement pas. Il paraissait plongé dans ses réflexions. Le soir, mon père pensa qu'un peu de musique l'égayerait. Je n'avais pas encore chanté devant Albert. Ma harpe n'était arrivée que de la veille. « Ce n'est pas devant vous, savante Porporina, que je puis me piquer de connaître la musique. Mais vous verrez que j'ai une jolie voix et que je ne manque pas de goût naturel. » Je me fis prier. J'avais plus envie de pleurer que de chanter. Albert ne dit pas un mot pour m'y encourager. Enfin, je cédais, mais je chantais fort mal, et Albert, comme si je lui eusse écorché les oreilles, eut la grossièreté de sortir au bout de quelques mesures. Il me fallut toute la force de mon orgueil pour ne pas fondre en larmes et pour achever mon air sans faire sauter les cordes de ma harpe. Ma tante avait suivi son neveu, mon père s'était endormi, mon oncle attendait près de la porte que sa sœur vînt lui dire quelque chose de son fils. L'abbé resta seul à me faire des compliments qui m'irritèrent encore plus que l'indifférence des autres. « Il paraît, lui dis-je, que mon cousin n'aime pas la musique. »«
Il l'aime beaucoup, au contraire, répondit-il. Mais
c'est selon la manière dont on chante, lui dis-je en l'interrompant.
C'est, reprit-il sans se déconcerter, selon la disposition de son âme. Quelquefois la musique lui fait du bien, et quelquefois du mal. Vous l'aurez ému, j'en suis certain, au point qu'il aura craint de ne pouvoir se contenir. Cette fuite est plus flatteuse pour vous que les plus grands éloges. »
Les adulations de ce jésuite avaient quelque chose de sournois et de railleur qui me le faisait détester. Mais j'en fus bientôt délivré, comme vous allez l'apprendre tout à l'heure. Chapitre 28. Le lendemain, ma tante, qui ne parle guère lorsque son cœur n'est pas vivement ému, eut la malheureuse idée de s'engager dans une conversation avec l'abbé et le chapelain. Et comme, en dehors de ses affections de famille, qui l'absorbent presque entièrement, il n'y a pour elle au monde qu'une distraction possible, laquelle est son orgueil de famille, elle ne manqua pas de s'y livrer en dissertant sur sa généalogie, et en prouvant à ces deux prêtres que notre race était la plus pure, la plus illustre et la plus excellente de toutes les familles de l'Allemagne, du côté des femmes particulièrement. L'abbé l'écoutait avec patience et notre chapelain avec révérence, lorsque Albert, qui ne paraissait pas l'écouter du tout, l'interrompit avec un peu de vivacité. « Il me semble, ma bonne tante, lui dit-il, que vous vous faites quelques illusions sur la prééminence de notre famille. Il est vrai que la noblesse et les titres de nos ancêtres remontent assez haut dans le passé. Mais une famille qui perd son nom, qui l'abjure en quelque sorte pour prendre celui d'une femme de race et de religion étrangère, renonce au droit de se faire valoir comme antique en vertu et fidèle à la gloire de son pays. » Cette remarque contraria beaucoup la chanoinesse. Mais comme l'abbé avait paru ouvrir l'oreille, elle crut devoir y répondre. « Je ne suis pas de votre avis, mon cher enfant, » dit-elle. « On a vu bien souvent d'illustres maisons se rendre, à bon droit, plus illustres encore, en joignant à leur nom celui d'une branche maternelle, afin de ne pas priver leurs oires de l'honneur qui leur revenait d'être issus d'une femme glorieusement apparentée. » « Mais ce n'est pas ici le cas d'appliquer cette règle, » reprit Albert avec une ténacité à laquelle il n'était point sujet. « Je conçois l'alliance de deux noms illustres. Je trouve fort légitime qu'une femme transmette à ses enfants son nom accolé à celui de son époux. Mais l'effacement complet de ce dernier nom me paraît un outrage de la part de celle qui l'exige, une lâcheté de la part de celui qui s'y soumet. »
« Vous rappelez des choses bien anciennes, Albert, » dit la chanoinesse avec un profond soupir, « et vous appliquez la règle plus mal à propos que moi. Monsieur l'abbé pourrait croire, en vous entendant, que quelque mâle, dans notre ascendance, aurait été capable d'une lâcheté. Et puisque vous savez si bien des choses dont je vous croyais à peine instruit, vous n'auriez pas dû faire une pareille réflexion à propos des événements politiques. » Déjà bien loin de nous, Dieu merci.
Si ma réflexion vous inquiète, je vais rapporter le fait, afin de laver notre aïeul Witold, dernier comte des Rudolstadt, de toute imputation injurieuse à sa mémoire. Cela paraît intéresser ma cousine, ajouta-t-il en voyant que je l'écoutais avec de grands yeux, tout étonné que j'étais de le voir se lancer dans une discussion si contraire à ses idées philosophiques et à ses habitudes de silence. « Sachez donc, Amélie, que notre arrière-grand-père, Wratislao, n'avait pas plus de 4 ans
lorsque sa mère, Ulrike de Rudolstadt, crut devoir lui infliger la flétrissure de quitter son véritable nom, le nom de ses pères, qui était Podiebrad, pour lui donner ce nom saxon que vous et moi portons aujourd'hui. Vous, sans en rougir, et moi, sans m'en glorifier.
« Il est au moins inutile, dit mon oncle Christian, qui paraissait fort mal à l'aise, de rappeler des choses si éloignées du temps où nous vivons. »
« Il me semble, reprit Albert, que ma tante a remonté bien plus haut dans le passé en nous racontant les hauts faits des Rudolstadt, et je ne sais pas pourquoi l'un de nous, venant par hasard à se rappeler qu'il est bohème et non pas saxon d'origine, qu'il s'appelle Podiebrad et non pas Rudolstadt, ferait une chose de mauvais goût en parlant d'événements qui n'ont guère plus de 120 ans de date.
Je savais bien, observa l'abbé qui avait écouté Albert avec un certain intérêt, que votre illustre famille était alliée dans le passé à la royauté nationale de Georges Podiebrad, mais j'ignorais qu'elle en descendît par une ligne assez directe pour en porter le nom.
C'est que ma tante, qui sait dessiner des arbres généalogiques, a jugé à propos d'abattre dans sa mémoire l'arbre antique et vénérable dont la souche nous a produit. Mais un arbre généalogique sur lequel notre histoire glorieuse et sombre a été tracée en caractère de sang est encore debout sur la montagne voisine.
Comme Albert s'animait beaucoup en parlant ainsi et que le visage de mon oncle paraissait s'assombrir, l'abbé essaya de détourner la conversation, bien que sa curiosité fût fort excitée. Mais la mienne ne me permit pas de rester en si beau chemin.
« Que voulez-vous dire, Albert ? » m'écriai-je en me rapprochant de lui.
« Je veux dire ce qu'une Podiebrad ne devrait pas ignorer, » répondit-il.
« C'est que le vieux chêne de la pierre d'épouvante, que vous voyez tous les jours de votre fenêtre, Amélie, et sous lequel je vous engage à ne jamais vous asseoir sans élever votre âme à Dieu, a porté, il y a 300 ans, des fruits un peu plus lourds que les glands desséchés qu'il a peine à produire aujourd'hui.
« C'est une histoire affreuse, » dit le chapelain tout effaré, « et j'ignore qui a pu la prendre au comte Albert. »
« La tradition du pays, et peut-être quelque chose de plus certain encore, » répondit Albert. « Car on a beau brûler les archives des familles et les documents de l'histoire, monsieur le chapelain, on a beau élever les enfants dans l'ignorance de la vie antérieure, on a beau imposer silence aux simples par le sophisme et aux faibles par la menace, ni la crainte du despotisme, ni celle de l'enfer ne peuvent étouffer les 1000 voix du passé qui s'élèvent de toutes parts. Non, non, elles parlent trop haut, ces voix terribles, pour que celles d'un prêtre leur imposent silence. Elles parlent à nos âmes dans le sommeil, par la bouche des spectres qui se lèvent pour nous avertir. Elles parlent à nos oreilles par tous les bruits de la nature. Elles sortent même du tronc des arbres, comme autrefois celle des dieux dans les bois sacrés, pour nous raconter les crimes, les malheurs et les exploits de nos pères. « Et pourquoi, mon pauvre enfant, dit la chanoinesse, nourrir ton esprit de ces pensées amères et de ces souvenirs funestes ?
Ce sont vos généalogies, ma tante. C'est le voyage que vous venez de faire dans les siècles passés qui ont réveillé en moi le souvenir de ces 15 moines pendus aux branches du chêne, de la propre main d'un de mes aïeux, à moi. Oh, le plus grand, le plus terrible, le plus persévérant, celui qu'on appelait le redoutable aveugle, l'invincible Jean Ziska du Calice.
Le nom sublime et abhorré du chef des Taborites, sectaire, qui renchérirent durant la guerre des Hussites sur l'énergie, la bravoure et les cruautés des autres religionnaires, tomba comme la foudre sur l'abbé et sur le chapelain. Le dernier fit un grand signe de croix. Ma tante recula sa chaise qui touchait celle d'Albert.
« Bonté divine ! » s'écria-t-elle. « De quoi et de qui parle donc cet enfant ? Ne l'écoutez pas, monsieur l'abbé. Jamais, non jamais, notre famille n'a eu ni lien ni rapport avec le réprouvé dont il vient de prononcer le nom abominable.
« Parlez pour vous, ma tante, » reprit Albert avec énergie.
«
Vous êtes une Rudolstaff dans le fond de l'âme, bien que vous soyez dans le fait une Podiebrade. Mais quant à moi, j'ai dans les veines un sang coloré de quelques gouttes de plus de sang bohème, purifié de quelques gouttes de moins de sang étranger. Ma mère n'avait ni saxon, ni bavarois, ni prussien dans son arbre généalogique. Elle était de pure race slave. Et comme vous paraissez ne pas vous soucier beaucoup d'une noblesse à laquelle vous ne pouvez prétendre, moi, qui tiens à ma noblesse personnelle, je vous apprendrai, si vous l'ignorez, je vous rappellerai, si vous l'avez oublié, que Jean Ziska laissa une fille, laquelle épousa un seigneur de Prachalitz, et que ma mère était une Prachalitz elle-même, descendait en ligne directe de Jean Ziska par les femmes, comme vous descendez des Rudolfstadt, ma tante.
« Ceci est un rêve, une erreur, Albert !»«
Non, ma chère tante, j'en appelle à monsieur le chapelain, qui est un homme véridique et craignant Dieu. Il a eu entre les mains les parchemins qui le prouvaient. »«
Moi ?»
s'écria le chapelain, pâle comme la mort.
« Vous pouvez l'avouer sans rougir devant monsieur l'abbé, » répondit Albert avec une amère ironie.
« Puisque vous avez fait votre devoir de prêtre catholique et de sujet autrichien en les brûlant le lendemain de la mort de ma mère. »
« Cette action, que me commandait ma conscience, n'a eu que Dieu pour témoin, »
reprit l'abbé plus pâle encore.
« Comte Albert, qui a pu vous révéler ?»«
Je vous l'ai dit, monsieur le chapelain, la voix qui parle plus haut que celle du prêtre. »«
Quelle voix, Albert ?»
demandai-je vivement intéressé.
« La voix qui parle dans le sommeil, » répondit Albert.
« Mais ceci n'explique rien, mon fils, » dit le comte Christian, tout pensif et tout triste.
« La voix du sang, mon père, »
répondit Albert d'un ton qui nous fit tous tressaillir.
« Hélas, mon Dieu, » dit mon oncle en joignant les mains. Ce sont les mêmes rêveries, les mêmes imaginations qui tourmentaient sa pauvre mère. Il faut que, dans sa maladie, elle ait parlé de tout cela devant notre enfant,
ajouta-t-il en se penchant vers ma tante,
et que son esprit en ait été frappé de bonheur.
Impossible, mon frère, répondit la chanoinesse. Albert n'avait pas 3 ans lorsqu'il perdit sa mère.
Il faut plutôt, dit le chapelain à voix basse, qu'il soit resté dans la maison quelques-uns de ces maudits écrits hérétiques, tout remplis de mensonges et tissus d'impiété, qu'elle avait conservés par esprit de famille, et dont elle eut pourtant la vertu de me faire le sacrifice à son heure suprême.
« Non, il n'en est pas resté, » répondit Albert, qui n'avait pas perdu une seule parole du chapelain, bien que celui-ci eût parlé assez bas. Et qu'Albert, qui se promenait avec agitation, fut en ce moment à l'autre bout du grand salon.
« Vous savez bien, monsieur le chapelain, que vous avez tout détruit, et que vous avez encore, au lendemain de son dernier jour, cherché et fureté dans tous les coins de sa chambre.
« Qui donc a ainsi aidé ou égaré votre mémoire, Albert ?» demanda le comte Christian d'un ton sévère.
Quel serviteur infidèle ou imprudent s'est donc avisé de troubler votre jeune esprit par le récit, sans doute exagéré, de ces événements domestiques ?
Aucun, mon père, je vous le jure, sur ma religion et sur ma conscience.
L'ennemi du genre humain est intervenu dans tout cela, dit le chapelain consterné.
Il serait plus vraisemblable et plus chrétien de penser, observa l'abbé, que le comte Albert est doué d'une mémoire extraordinaire, et que des événements dont le spectacle ne frappe point ordinairement l'âge tendre sont restés gravés dans son esprit. Ce que j'ai vu de sa rare intelligence me fait aisément croire que sa raison a dû avoir un développement fort précoce, et quant à sa faculté de garder le souvenir des choses, j'ai reconnu qu'elle était prodigieuse en effet.
« Elle ne vous semble prodigieuse que parce que vous en êtes tout à fait dépourvu, » répondit Albert sèchement.
« Par exemple, vous ne vous rappelez pas ce que vous avez fait en l'année 1619, après que Witold Podiebrade, le protestant, le vaillant, le fidèle, votre grand-père, ma chère tante, le dernier qui porta notre nom,
eût rougi de son sang la pierre d'épouvante. « Vous avez oublié votre conduite en cette circonstance. Je le parierai, monsieur l'abbé. »
« Je l'ai oublié entièrement, je l'avoue, » répondit l'abbé avec un sourire railleur qui n'était pas de trop bon goût dans un moment où il devenait évident pour nous tous qu'Albert divaguait complètement.
« Eh bien, je vais vous la rappeler, » reprit Albert sans se déconcerter. « Vous allâtes bien vite conseiller à ceux des soldats impériaux qui avaient fait le coup de se sauver ou de se cacher, parce que les ouvriers de Pilsen, qui avaient le courage de s'avouer protestants et qui adoraient Witold, venaient pour venger la mort de leur maître et s'apprêtaient à les mettre en pièces. Puis, vous vintes trouver mon aïeul Ulrich, la veuve tremblante et consternée de Witold, et vous lui promîtes de faire sa paix avec l'empereur Ferdinand II, de lui conserver ses biens, ses titres, sa liberté et la tête de ses enfants, si elle voulait suivre vos conseils et vous payer vos services à prix d'or. Elle y consentit. Son amour maternel lui suggéra cet acte de faiblesse. Elle ne respecta pas le martyr de son noble époux. Elle était née catholique et n'avait abjuré que par amour pour lui. Elle ne sut point accepter la misère, la proscription, la persécution. Pour conserver à ses enfants une foi que Witold venait de signer de son sang, et un nom qu'il venait de rendre plus illustre encore que tous ceux de ses ancêtres, Hussites, Galixtins, Taborites, Orphelins, Frères de l'Union et Luthériens. Tous ces noms, ma chère Porporina, sont ceux des diverses sectes, qui joignent l'hérésie de Jean Hus à celle de Luther, et qui avaient probablement suivi la branche des Podiebrades dont nous descendons. « Enfin, continua Albert, la Saxonne eut peur et céda. Vous prîtes possession du château, vous en éloignâtes les bandes impériales, vous fîtes respecter nos terres. Vous fîtes un immense auto-da-fé de nos titres et de nos archives. C'est pourquoi ma tante, pour son bonheur, n'a pu rétablir l'arbre généalogique des Podiebrades et s'est rejetée sur la pâture moins indigeste des Rudolfstadt. Pour prix de vos services, vous fûtes riche, très riche. 3 mois après, il fut permis à Ulrich d'aller embrasser à Vienne les genoux de l'empereur, qui lui permit gracieusement de dénationaliser ses enfants, de les faire élever par vous dans la religion romaine, et de les enrôler ensuite sous les drapeaux contre lesquels leurs pères et leurs aïeux avaient si vaillamment combattu. Nous fûmes incorporés, mes fils et moi, dans les rangs de la tyrannie autrichienne.
« Tes fils et toi ?» dit ma tante désespérée, voyant qu'il battait la campagne.
« Oui, mes fils, Sigismond et Rodolphe, » répondit très sérieusement Albert.
« C'est le nom de mon père et de mon oncle, » dit le comte Christian. « Albert, où est ton esprit? Reviens à toi, mon fils. Plus d'un siècle nous sépare de ces événements douloureux accomplis par l'ordre de la Providence. »
Albert n'en voulut point démordre. Il se persuada et voulut nous persuader qu'il était le même que Wratislaw, fils de Witold et le premier des Podiebrades qui eût porté le nom maternel de Rudolstadt. Il nous raconta son enfance, le souvenir distinct qu'il avait gardé du supplice du comte Witold, supplice dont il attribuait tout l'odieux au jésuite Dittmar, lequel, selon lui, n'était autre que l'abbé, son gouverneur. La haine profonde que, pendant son enfance, il avait éprouvée pour ce Dittmar, pour l'Autriche, pour les impériaux et pour les catholiques. Et puis, ses souvenirs parurent se confondre, et il ajouta 1000 choses incompréhensibles sur la vie éternelle et perpétuelle, sur la réapparition des hommes sur la terre, se fondant sur cet article de la croyance hussitique, que Jean Hus devait revenir en Bohême 100 ans après sa mort et compléter son œuvre. Prédiction qui s'était accomplie, puisque selon lui, Luther était Jean Hus ressuscité. Enfin, ses discours furent un mélange d'hérésie, de superstition, de métaphysique obscure, de délire poétique. Et tout cela fut débité avec une telle apparence de conviction, avec des souvenirs si détaillés, si précis et si intéressants de ce qu'il prétendait avoir vu, non seulement dans la personne de Vratislav, mais encore dans celle de Jean Ziska et de je ne sais combien d'autres morts qu'il soutenait avoir été ses propres apparitions dans la vie du passé, que nous restâmes tous béants à l'écouter, sans qu'aucun de nous eût la force de l'interrompre ou de le contredire. Mon oncle et ma tante, qui souffraient horriblement de cette démence, impie selon eux, voulaient du moins la connaître à fond, car c'était la première fois qu'elle se manifestait ouvertement, et il fallait bien en savoir la source pour tâcher ensuite de la combattre. L'abbé s'efforçait de tourner la chose en plaisanterie et de nous faire croire que le comte Albert était un esprit fort plaisant et fort malicieux, qui prenait plaisir à nous mystifier par son incroyable érudition. « Il a tant lu, nous disait-il, qu'il pourrait nous raconter ainsi l'histoire de tous les siècles, chapitre par chapitre, avec assez de détails et de précisions pour faire accroire à des esprits un peu portés au merveilleux qu'il a véritablement assisté aux scènes qu'il raconte. La chanoinesse, qui, dans sa dévotion ardente, n'était pas très éloignée de la superstition et qui commençait à croire son neveu sur parole, prit très mal les insinuations de l'abbé et lui conseilla de garder ses explications badines pour une occasion plus gaie. Puis elle fit un grand effort pour amener Albert à rétracter les erreurs dont il avait la tête remplie. « Prenez garde, ma tante !» s'écria Albert avec impatience. Que je ne vous dise qui vous êtes. Jusqu'ici, je n'ai pas voulu le savoir. Mais quelque chose m'avertit en ce moment que la Saxonne Ulrique est auprès de moi.
« Mais quoi, mon pauvre enfant ? » répondit-elle. « Cette aïeule prudente et dévouée qui sut conserver à ses enfants la vie et à ses descendants l'indépendance, les biens et les honneurs dont ils jouissent, vous pensez qu'elle revit en moi ? Eh bien, Albert, je vous aime tant que pour vous je ferais plus encore. Je sacrifierais ma vie, si je pouvais, à ce prix, calmer votre esprit égaré. »
Albert la regarda quelques instants avec des yeux à la fois sévères et attendris. « Non, non, dit-il enfin en s'approchant d'elle et en s'agenouillant à ses pieds. « Vous êtes un ange et vous avez communié jadis dans la coupe de bois des Hussites. Mais la Saxonne est ici, cependant. » Et sa voix a frappé mon oreille aujourd'hui à plusieurs reprises. Prenez que c'est moi, Albert, lui dis-je en m'efforçant de l'égayer, et ne m'en veuillez pas trop de ne pas vous avoir livré au bourreau en l'année 1619.
Vous, ma mère, dit-il en me regardant avec des yeux effrayants, ne dites pas cela, car je ne puis vous pardonner. Dieu m'a fait renaître dans le sein d'une femme plus forte. Il m'a retrempé dans le sang de Ziska, dans ma propre substance qui s'était égarée je ne sais comment. Amélie, ne me regardez pas, ne me parlez pas surtout. C'est votre voix, Ulrich, qui me fait aujourd'hui tout le mal que je souffre. »
En disant cela, Albert sortit précipitamment et nous restâmes tous consternés de la triste découverte qu'il venait enfin de nous faire sur le dérangement de son esprit. Il était alors 2 heures après-midi. Nous avions dîné paisiblement. Albert n'avait bu que de l'eau. Rien ne pouvait nous donner l'espoir que cette démence fût l'effet de l'ivresse. Le chapelain et ma tante se levèrent aussitôt pour le suivre et pour le soigner, le jugeant fort malade. Mais, chose inconcevable, Albert avait déjà disparu comme par enchantement. On ne le trouva ni dans sa chambre, ni dans celle de sa mère, où il avait coutume de s'enfermer souvent, ni dans aucun recoin du château. On le chercha dans le jardin, dans la garenne, dans les bois environnants, dans les montagnes. Personne ne l'avait vu de près ni de loin. La trace de ses pas n'était restée nulle part. La journée et la nuit s'écoulèrent ainsi. Personne ne se coucha dans la maison. Nos gens furent sur pied jusqu'au jour pour le chercher avec des flambeaux. Toute la famille se mit en prière. La journée du lendemain se passa dans les mêmes anxiétés et la nuit suivante dans la même consternation. Je ne puis vous dire quelle terreur j'éprouvais. Moi, qui n'avais jamais souffert, jamais tremblé de ma vie pour des événements domestiques de cette importance. Je crus très sérieusement qu'Albert s'était donné la mort ou s'était enfui pour jamais. J'en pris des convulsions et une fièvre assez forte. Il y avait encore en moi un reste d'amour au milieu de l'effroi que m'inspirait un être si fatal et si bizarre. Mon père conservait la force d'aller à la chasse, s'imaginant que dans ses courses lointaines, il retrouverait Albert au fond des bois. Ma pauvre tante, dévorée de douleur, mais active et courageuse, me soignait et cherchait à rassurer tout le monde. Mon oncle priait jour et nuit. En voyant sa foi et sa soumission stoïque aux volontés du ciel, je regrettais de n'être pas dévote. L'abbé feignait un peu de chagrin, mais affectait de n'avoir aucune inquiétude. « Il est vrai, disait-il, qu'Albert n'avait jamais disparu ainsi de sa présence, mais il était sujet à des besoins de solitude et de recueillement. Sa conclusion était que le seul remède à ces singularités était de ne jamais les contrarier et de ne pas paraître les remarquer beaucoup. Le fait est que ce subalterne intrigant et profondément égoïste ne s'était soucié que de gagner les larges appointements attachés à son rôle surveillant, et qu'il les avait fait durer le plus longtemps possible en trompant la famille sur le résultat de ses bons offices. Occupé de ses affaires et de ses plaisirs, il avait abandonné Albert à ses penchants extrêmes. Peut-être l'avait-il vu souvent malade et souvent exalté. Il avait sans doute laissé un libre cours à ses fantaisies. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il avait eu l'habileté de les cacher à tous ceux qui eussent pu nous en rendre compte. Car dans toutes les lettres que reçut mon oncle au sujet de son fils, il n'y eut jamais que des éloges de son extérieur et des félicitations sur les avantages de sa personne. Albert n'a laissé nulle part la réputation d'un malade ou d'un insensé. Quoi qu'il en soit, sa vie intérieure durant ses 8 ans d'absence est restée pour nous un secret impénétrable. L'abbé, voyant au bout de 3 jours qu'il ne reparaissait pas, et craignant que ses propres affaires ne fussent gâtées par cet incident, se mit en campagne, soi-disant pour le chercher à Prague, où l'envie de chercher quelques livres rares pouvait, selon lui, l'avoir poussé. « Il est, disait-il, comme les savants qui s'abîment dans leurs recherches et qui oublient le monde entier pour satisfaire leur innocente passion. » Là-dessus, l'abbé partit et ne revint pas. Au bout de 7 jours d'angoisse mortelle, et comme nous commencions à désespérer, ma tante, passant vers le soir devant la chambre d'Albert, vit la porte ouverte et Albert assis dans son fauteuil, caressant son chien qu'il avait suivi dans son mystérieux voyage. Ses vêtements n'étaient ni salis ni déchirés. Seulement la dorure en était noircie, comme s'il fût sorti d'un lieu humide, ou comme s'il eût passé les nuits à la Belle Étoile. Sa chaussure n'annonçait pas qu'il eût beaucoup marché, mais sa barbe et ses cheveux témoignaient d'un long oubli des soins de sa personne. Depuis ce jour-là, il a constamment refusé de se raser et de se poudrer comme les autres hommes. C'est pourquoi vous lui avez trouvé l'aspect d'un revenant. Ma tante s'élança vers lui en faisant un grand cri. « Qu'avez-vous donc, ma chère tante ? » dit-il en lui baisant la main. « On dirait que vous ne m'avez pas vue depuis un siècle. »« Mais malheureux enfant ! » s'écria-t-elle. « Il y a 7 jours que tu nous as quittés sans nous rien dire. 7 mortels jours, 7 affreuses nuits que nous te cherchons, que nous te pleurons et que nous prions pour toi. »«
7 jours ? »
dit Albert en la regardant avec surprise. « Il faut que vous ayez voulu dire 7 heures, ma chère tante. » « Car je suis sortie ce matin pour me promener et je rentre à temps pour souper avec vous. Comment ai-je pu vous causer une pareille inquiétude par une si courte absence ?»«
Sans doute, » dit-elle, craignant d'aggraver son mal en le lui révélant. « La langue m'a tournée, j'ai voulu dire 7 heures. Je me suis inquiétée parce que tu n'as pas l'habitude de faire d'aussi longues promenades. Et puis, j'avais fait cette nuit un mauvais rêve. J'étais folle. »
« Bonne tante, excellente amie !» dit Albert en couvrant ses mains de baisers. « Vous m'aimez comme un petit enfant. Mon père n'a pas partagé votre inquiétude, j'espère. »«
Nullement, il t'attend pour souper. Tu dois avoir bien faim. »«
Fort peu, j'ai très bien dîné. »«
Où donc ? Et quand donc, Albert ?
Mais si, ce matin, avec vous, ma bonne tante. Vous n'êtes pas encore revenue à vous-même, je le vois. Oh, que je suis malheureux de vous avoir causé une telle frayeur. Comment aurais-je pu le prévoir? Tu sais que je suis ainsi. Laisse-moi donc te demander où tu as mangé, où tu as dormi depuis que tu nous as quittés.
Depuis ce matin, comment aurais-je eu envie de dormir ou de manger?
Tu ne te sens pas malade?
Pas le moins du monde.
Point fatigué?
Tu as sans doute beaucoup marché, gravi les montagnes. Cela est fort pénible. Où as-tu été?
Albert mit la main sur ses yeux comme pour se rappeler, mais il ne put le dire.
Je vous avoue, répondit-il, que je n'en sais plus rien. J'ai été fort préoccupé. J'ai marché sans rien voir, comme je faisais dans mon enfance. Vous savez, je ne pouvais jamais vous répondre quand vous m'interrogiez.
Et durant tes voyages, faisais-tu plus d'attention à ce que tu voyais?
Quelquefois, mais pas toujours. J'ai observé bien des choses, mais j'en ai oublié beaucoup d'autres, Dieu merci.
Et pourquoi, Dieu merci?
Parce qu'il y a des choses affreuses à voir sur la face de ce monde,
répondit-il en se levant avec un visage sombre que jusque-là ma tante ne lui avait pas trouvé. Elle vit qu'il ne fallait pas le faire causer davantage et courut annoncer à mon oncle que son fils était retrouvé. Personne ne le savait encore dans la maison. Personne ne l'avait vu rentrer. Son retour n'avait pas laissé plus de traces que son départ. Mon pauvre oncle, qui avait eu tant de courage pour supporter le malheur, n'en eut pas dans le premier moment pour la joie. Il perdit connaissance. Et lorsqu'Albert reparut devant lui, il avait la figure plus altérée que celle de son fils. Albert, qui depuis ses longs voyages semblait ne remarquer aucune émotion autour de lui, parut ce jour-là tout renouvelé et tout différent de ce qu'on l'avait vu jusqu'alors. Il fit 1000 caresses à son père, s'inquiéta de le voir si changé et voulut en savoir la cause. Mais quand on se hasarda à la lui faire pressentir, il ne put jamais la comprendre. Et toutes ses réponses furent faites avec une bonne foi et une assurance qui semblaient bien prouver l'ignorance complète où il était des 7 jours de sa disparition. « Ce que vous me racontez ressemble à un rêve, » dit Consuelo, « et me porte à divaguer plutôt qu'à dormir, ma chère baronne. Comment est-il possible qu'un homme vive pendant 7 jours sans avoir conscience de rien ?»
Ceci n'est rien auprès de ce que j'ai encore à vous raconter. Et jusqu'à ce que vous ayez vu par vous-même, que loin d'exagérer, j'atténue pour abréger. Vous aurez, je le conçois, de la peine à me croire. Moi-même, qui vous rapporte ce dont j'ai été témoin, je me demande encore quelquefois si Albert est sorcier ou s'il se moque de nous. Mais l'heure est avancée, et véritablement, je crains d'abuser de votre complaisance.
« C'est moi qui abuse de la vôtre, » répondit Consuelo. « Vous devez être fatigué de parler. Remettons donc à demain soir, si vous le voulez bien, la suite de cette incroyable histoire. »«
À demain, soit, » dit la jeune baronne en l'embrassant.